100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Il ne fait pas bon être journaliste en Turquie aujourd'hui. Chaque mois amène son lot de condamnations à des peines allant de quelques années de prison à la perpétuité. Ils sont des centaines envoyés derrière les barreaux pour, je cite, « apologie du terrorisme » ou « atteinte à la stabilité économique du pays ». C'est dans ce climat qu'ouvre à Istanbul un lieu de mémoire dédié à Hrant Dink, célèbre journaliste arménien, assassiné il y a 12 ans devant les locaux de son journal. C'est là qu'une fondation a voulu faire vivre son combat pour la paix et pour l'histoire de l'Arménie. Visite avec Anand Lauer.
Impossible de se tromper d'immeuble. Sur le trottoir devant la lourde porte en fer, une plaque rappelle que c'est ici, sur cette avenue passante du centre d'Istanbul, que Hrant Dink a été assassiné le 19 janvier 2007 à 15h05. De 1996 à sa mort, au premier étage de ce bel immeuble 1920, Hrant Dink a dirigé la rédaction d'Agos, hebdomadaire bilingue turco-arménien. En 2015, le journal a déménagé dans des bureaux plus grands, laissant la place à ce qu'il faut désormais appeler le lieu de mémoire Hrant Dink 23 et demi. Pourquoi 23 et demi ? Nayat Karaköse, coordinatrice du projet au sein de la fondation Hrant Dink, rappelle qu'il s'agissait du titre d'un article du journaliste paru le 23 avril 1996. Il expliquait pourquoi il se retrouvait chaque année pris au milieu de ces deux dates, le 23 et le 24 avril.
Hrant Dink y observait que le 23 avril, la Turquie célèbre la fondation de son parlement et que ce jour a été choisi comme fête des enfants, symbole d'espoir pour l'avenir. Quant au 24 avril, il marque le début de ce qui s'est passé en 1915, un épisode très lourd dans la mémoire et le cœur des Arméniens. Dans ce texte, Hrant Dink partageait ses sentiments contradictoires, le fait de se retrouver ce jour-là entre passé et avenir, entre espoir et douleur, mais il lançait aussi un appel, puisque le 23 avril est dédié aux enfants, invitez des enfants d'Arménie, faites-les se rencontrer ici. C'était un texte qui souhaitait la paix, le dialogue, un texte plein d'espoir, et nous avons trouvé que cela correspondait très bien à la mission de ce lieu de mémoire.
Nayat Karaköse raconte cela dans le bureau de Hrant Dink, l'une des 11 pièces de ce lieu de mémoire. Tout est là, exactement comme le journaliste l'avait laissé le jour de sa mort. Sur le bureau, ses crayons, son carnet rempli de notes, en turc, en arménien, en anglais, et de dessins griffonnés dans un moment d'ennui ou de rêverie. Sur les étagères, ses livres, ses récompenses, et un petit pot contenant de la terre de la maison où il est né en 1954, à Malatya, dans l'est de l'Anatolie. Nayat Karaköse insiste, elle qui, pour ce projet, a visité 80 lieux de mémoire à travers le monde, cet endroit n'est pas un musée. Les visiteurs peuvent toucher à tout, et beaucoup plus encore.
Le but est de faire ressentir, de faire vivre une expérience aux visiteurs. Les musées, en général, sont des endroits un peu figés, alors que les lieux de mémoire sont des lieux qui font se poser des questions plutôt que d'apporter des informations. Ici, les visiteurs se voient proposer de nombreuses vidéos, et notre narrateur principal, c'est Hrant Dink.
Exemple dans la pièce d'à côté, elle raconte l'histoire de Camp Armen. Cette orphelinat d'Istanbul a accueilli pendant une vingtaine d'années des centaines d'enfants arméniens, dont Hrant Dink. Il y a rencontré son épouse, Raquel. Tous deux ont fait beaucoup pour préserver cet autre lieu de mémoire. Dans un coin de la pièce, sur un écran tactile, une carte de la Turquie s'affiche.
La fondation Hrant Dink a fait un travail précieux de recensement de l'héritage culturel de la Turquie. Sur cette carte, on découvre les lieux bâtis par les Arméniens, les Syriaques, les Juifs et les Grecs de Turquie. Ils y sont tous, ville par ville, les églises, les écoles, les synagogues, les hôpitaux. L'écran demande aux visiteurs, y avait-il des Arméniens dans votre ville ? Et la carte lui donne la réponse, malheureusement. La plupart de ces lieux n'existent plus. Rendez-vous compte, il y a un siècle, la Turquie comptait 2000 écoles arméniennes et grecques. Aujourd'hui, il ne reste aux Arméniens que 17 écoles.
Résultat de 100 ans d'efforts de la République de Turquie pour homogénéiser son jeune État-nation. Parfois par la violence, le génocide des Arméniens en fut le paroxysme, parfois plus insidieusement. Une autre petite pièce évoque le souvenir douloureux du service militaire de Handink. Contrairement à ses camarades, il n'avait pas été promu en raison de ses origines. Cela l'avait beaucoup affecté.
Il s'était enfermé dans un abri en tôle, il pleurait. Et pendant qu'il pleurait, pour que personne n'entende, il grattait la tôle.
Les murs de la petite pièce sont couverts de tôles grises ondulées. Un écran équipé d'une webcam est installé face à un fauteuil où les visiteurs peuvent s'asseoir et confier à leur tour leurs propres expériences de discrimination. La pièce la plus vaste et la plus lumineuse est réservée aux recherches et aux événements.
Nous avons rassemblé toutes les archives du journal Agos de 1996 à 2007 sur papier et sur numérique. N'importe qui peut venir ici, passer sa journée dans les archives, faire ses recherches et s'informer. C'est ce que nous voulions. Oui, nous sommes dans un lieu d'exposition, mais nous l'avons aussi pensé comme un environnement qui inspire, qui pousse à produire. Bref, un endroit qui vit.
Le lieu de mémoire Randink 23 et demi est donc ouvert à tous, gratuitement, du mardi au vendredi de 10h à 17h et jusqu'à 18h le week-end.
La guerre froide n'est pas tout à fait terminée. Elle renaît sous la forme d'une guerre médiatique violente où tous les trafics d'influence sur les réseaux sociaux semblent permis. Militairement aussi, l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 5 ans a créé un choc. Et sur les bords de la mer Baltique, on se prépare au pire. C'est le cas de la Suède qui a réintroduit le service militaire et les exercices grandeur nature pour ses soldats. Reportage de la RTBF signé Caroline Hick et Jean-Marc Viercé.
Depuis un peu plus d'un an, les tirs résonnent à nouveau sur l'île suédoise de Gotland, en plein cœur de la mer Baltique. Cela faisait 15 ans que le dernier régiment avait quitté cette petite île, mais en 2018, 280 hommes et femmes ont été repositionnés ici de manière permanente. Ida Delin, élève officier basé à Gotland.
On a l'impression de faire quelque chose de spécial et ça nous rend encore plus heureux d'être ici. Tout le monde a le sentiment que ce que nous faisons est très important, que c'est vital pour la Suède. Ici, le service militaire a été réinstauré. Les campagnes de recrutement de l'armée ont repris. Il faut dire que depuis la fin de la guerre froide, la défense suédoise avait fondu comme neige au soleil. C'est en 2014 que le déclic se produit lorsque la Russie annexe la Crimée. Plusieurs incidents entre la Suède et la Russie ont depuis lors ravivé les tensions entre les deux pays. Le colonel Mathias Ardine, commandant du régiment de Gotland, situé à 250 km à vol d'oiseau de l'enclave russe de Kaliningrad.
Nous constatons une détérioration de la situation sécuritaire dans les pays baltes. De nombreux exercices sont organisés. Il y a une Russie forte, avec une activité militaire beaucoup plus intense qu'auparavant. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Cette détérioration est la raison pour laquelle nous reconstruisons notre armée.
Parallèlement à l'aspect militaire, la préparation de la population civile est aussi enclenchée. L'an dernier, tous les ménages suédois ont reçu une petite brochure dans leur boîte aux lettres. Elle détaille comment se préparer au mieux en cas de crise climatique, de graves pannes de courant et même de conflits armés. Cela n'était plus arrivé depuis la guerre froide. Il est notamment conseillé de stocker des vivres pour pouvoir survivre une semaine sans aucune aide des autorités.
Hello Eric, this is Caroline.
Yeah, okay. No problems. I open the door for you. It's on the second floor.
Dans son petit appartement de Stockholm, Eric, informaticien, est prêt à parer à toutes les situations.
J'ai des pâtes, des flocons de pommes de terre. Ça se conserve bien. J'ai aussi des tomates pelées. C'est intéressant parce que vous pouvez cuire vos macaronis dedans. Vous n'avez pas besoin d'eau en plus. Ça, c'est un chargeur solaire. Je peux charger mes batteries avec et être sûr de pouvoir utiliser mes radios. Et puis j'ai de l'eau. Ça, l'eau, c'est important. J'ai de l'eau à la cave, 20 litres ou quelque chose comme ça, et elle se conserve 50 ans.
Eric a dépensé environ 2000 euros pour s'équiper. C'est devenu pour lui un jeu, voire une obsession. Il estime qu'en cas de crise, il pourrait tenir un mois.
Il faut pouvoir se chauffer. trouver de l'eau, de la nourriture et pouvoir communiquer. C'est ça qui manquera en cas de crise. Il n'y aura probablement plus d'électricité pendant une longue période. Il n'y aura plus d'eau courante, plus de chauffage à la maison. Il n'y aura plus assez de nourriture. Regardez ce qui se passe au Venezuela.
Plus la population sera préparée, plus la Suède tiendra le choc en cas de crise. C'est le message adressé aux habitants. Des habitants qui ne sont pas tous aussi bien préparés qu'Eric, mais qui comprennent la démarche et les inquiétudes des autorités, à l'image d'Alf, fonctionnaire d'une cinquantaine d'années.
Historiquement, si on remonte assez loin, des années 50 aux années 90, les institutions suédoises étaient prêtes à n'importe quel scénario. Il y avait des réserves de nourriture, des abris gigantesques avec des couvertures. Mais depuis la fin de la guerre froide, tout a disparu. On a tout vendu. Puis il y a eu la crise de Crimée en 2014. Et c'est comme si la guerre froide était de retour, en quelque sorte. La même paranoïa.
De paranoïa, il n'est pas encore vraiment question. Mais les Suédois préfèrent se préparer plutôt que de prendre le risque d'être un jour cueillis par surprise. La Suède n'est pas membre de l'OTAN, mais elle intensifie depuis plusieurs mois sa coopération avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui se dit elle aussi de plus en plus préoccupée par les activités militaires et non militaires de la Russie dans la région de la Baltique.
Et la menace russe, c'est aussi une question très présente pour les trois républiques baltes, marquées au fer rouge par l'histoire soviétique. Bonjour Emma Roulin.
Bonjour Frédéric.
Un roman graphique intitulé Haïku de Sibérie revient justement aujourd'hui sur une des périodes les plus noires de cette histoire.
Oui, le 14 juin 1941, il y a 78 ans, 43 000 Estoniens, Lettons et Lituaniens étaient déportés par les soviétiques en Sibérie. Parmi eux, des milliers d'enfants de moins de 16 ans. Cela fait partie des crimes commis par Staline. Deux ans plus tôt, l'Allemagne et l'URSS avaient signé le pacte germano-soviétique, un pacte de non-agression contenant des clauses secrètes dans lesquelles les deux pays se partageaient les États situés entre leurs territoires. En juin 1940, l'armée rouge envahit donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Les trois pays baltes sont incorporés à l'URSS et toutes les personnes considérées comme traîtres à la nation et leurs familles sont déportées.
Et c'est d'ailleurs le cas de la famille de l'auteur lituanienne Jurga Vilė qui signe ce roman graphique.
Dans la nuit du 14 juin 1941, son père Algis est encore enfant quand il est réveillé dans la nuit par des soldats russes. Quelques minutes plus tard, la famille est entassée dans une charrette roulant vers une gare. Devant un train, elle est séparée, femme et enfant d'un côté, homme de l'autre. Algis, sa mère, sa sœur et sa tante sont parqués dans d'anciens wagons à bestiaux, direction le sud-ouest de la Sibérie. Algis vivra 5 ans dans les baraques aux murs troués d'un camp situé près de la ville de Barnaul. Il y connaîtra le froid, la maladie, la faim, y côtoiera la mort et y perdra une partie de son enfance et de son innocence. Ces douloureux souvenirs, griffonnés dans des carnets ou évoqués à mots couverts, Jurga Vilė, sa fille, a grandi avec. En écrivant ce livre, elle a souhaité transmettre cet héritage à ses enfants et à tous les jeunes Lituaniens qui n'ont pas connu l'occupation soviétique. Objectif, changer leur perception des migrants. On l'écoute.
Moi, je trouvais ça important à raconter pour cette belle vie qu'on a aujourd'hui, qu'on n'oublie pas, en fait, ni ce qui s'est passé avant, ni ce qui se passe maintenant. Et ce qui peut se passer encore. Et moi, je pense qu'un enfant qui voit un autre enfant... Disons un enfant réfugié, étranger, à côté de lui, qu'il naturellement se pose les questions. Est-ce que cet enfant est là parce qu'il a envie d'être ici ou c'est les circonstances qui l'ont amené jusqu'à chez nous, en fait. Ce regard sur un étranger, comment c'était un Lituanien en Sibérie Et puis là, aujourd'hui, quelqu'un qui vient de Syrie, quelque part, en fait.
Et donc, Emma, tout au long du roman, Yurga Villet raconte cette histoire du point de vue d'un enfant.
Oui, avec sa dose d'innocence et de naïveté, il y a des choses qu'Algis, le personnage principal, ne comprend pas, qu'il interprète mal ou qu'il invente pour se protéger. Le lecteur a bien du mal à distinguer le vrai du faux, l'horreur apparaît en filigrane, mais on se laisse vite emporter par cet univers enfantin qui prend des allures de fable ou de conte. Le résultat, c'est un ouvrage hybride, alternant récits illustrés, bandes dessinées, lettres, poèmes, mais aussi un livre lumineux qui fait surgir des moments de poésie et de bonheur au milieu de la tragédie. Un parti pris étonnant, inspiré des récits de la grand-mère de Yurga Villet.
C'est la lumière qui dégageait des mémoires de ma grand-mère, qui m'a montré la voie comment je devrais raconter ça. Souvent, elle parle de la beauté de la nature, de la gentillesse des gens, de bonnes choses, en fait. C'est très rare qu'elle dise quelque chose qui ne va pas. Elle le prend comme ça, comme quelque chose, bon, c'est arrivé, puis on doit vivre avec. Donc je voulais montrer ça. Que la vie continuait, tout simplement.
Haïku de Sibérie de Yurga Villet, mise en image par Lina Itadaki et traduit en français par notre correspondante Marielle Vitureau, est sorti au printemps aux éditions Sarbacane. Merci Emma Roulin.
À bientôt Frédéric.
À très bientôt. Le tourisme de masse, il n'en est pas encore question en Macédoine du Nord, mais plutôt d'écotourisme responsable, notamment dans la région très préservée des lacs de Tesla, près de la frontière grecque. Reportage de Louis Seyé.
Ils sont ici chez eux, dans un paysage grandiose façonné par les montagnes. Une famille de pélicans frisés prend le soleil. Des dizaines de libellules s'agitent autour d'eux. Nous sommes sur les lacs de Prespa, une réserve de biosphère partagée entre Macédoine du Nord, Grèce et Albanie. Cette région sauvage est restée longtemps à l'écart des circuits touristiques. Elle attire aujourd'hui des curieux de la nature, comme l'explique Daniela Zayets, qui travaille pour une association écologiste de Macédoine.
Il y a de plus en plus de gens qui viennent dans le cadre de séjours naturalistes pour les oiseaux ou pour les papillons. Il y a aussi les randonnées, le vélo de montagne. C'est devenu très populaire ces dernières années. Et maintenant, les habitants comprennent les opportunités de ce type de tourisme. Il est clair aujourd'hui que c'est dans ce sens que nous devons aller.
Les immenses campings et bungalows construits sur les rives macédoniennes sont à l'abandon. Aujourd'hui, les touristes recherchent autre chose. Les richesses naturelles des lacs de Prespa sont une source d'espoir pour les populations locales.
Avant, les habitants misaient essentiellement sur un tourisme de masse, un tourisme très commercial. Mais aujourd'hui, ils voient plus le potentiel économique et les opportunités de l'écotourisme. Parce qu'ici, à Prespa, nous avons beaucoup à offrir, avec le lac, les montagnes, de nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes.
Pour que l'écotourisme tienne ses promesses, les Macédoniens regardent de l'autre côté du lac, chez leurs voisins grecs. Ici, des mesures ont été prises dès le début des années 90 afin d'allier développement touristique et préservation de la nature. Nonas Tergios y cultive d'incroyables variétés de légumineuses.
Ce sont des produits naturels bio. Ils viennent d'ici, de Prespa. Là, tu vois, c'est mon nom et le nom du village, Prespa. C'est le label bio-européen. Moi, je suis en bio depuis 2002. Ma famille produit ses haricots depuis des générations et moi, depuis que je suis petit.
Comme beaucoup d'habitants des lacs de Prespa, Nonas espère beaucoup des futures retombées du tourisme. Après l'accord sur le nom de Macédoine du Nord, les gouvernements grecs et macédoniens ont décidé de rouvrir le petit poste frontière situé au bord du lac et fermé depuis plus de 50 ans. Pour les lacs de Prespa et les pélicans, une nouvelle ère devrait bientôt commencer.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, et sur les réseaux sociaux. À demain.
Pour nous écrire, accent au pluriel.europe@rfi.fr.